Crise énergétique, comment agir au plus vite? Une émission proposée par Delta Q sur Radio Imo et Carbone Zéro la radio.
Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission proposée par Delta Q sur la crise énergétique. Comment agir plus vite grâce à la technologie? On va parler justement des bâtiments tertiaires, notamment des bureaux. On le sait, les consommations CVC, on traduit les acronymes chauffage, ventilation, climatisation d'un immeuble représentent 50 à 60% des consommations totales. Les systèmes mis en place depuis une vingtaine d'années n'utilisent pas assez de données, ces fameuses data mises à jour régulièrement qui agissent en réaction, mais qui agissent malheureusement souvent quand il est trop tard. Pourtant, il existe des moyens pour justement utiliser de manière proactive ces données et améliorer les consommations des bâtiments pour économiser finalement et améliorer ses performances énergétiques. On va en débattre avec nos experts. On accueille autour du plateau Sébastien Chemouni. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Vous êtes Head of France Alliance Real Estate. Avec vous, on va voir comment ça se passe justement dans votre organisme, dans notre panel de vos entreprises clientes. Bienvenue à Khadija Nadi, la CEO de Delta Q. Bonjour. Bienvenue à vous. Bernard Dage, vous êtes directeur du développement chez Longevity Partners France.
Bonjour.
Bienvenue. Philippe Lefort, bonjour.
Bonjour.
Head of Umbio, directeur technologie Patrizia, qui nous vient tout droit de Londres. Bienvenue à vous. Et enfin, Francesco Amari, le directeur France de Delta Q.
Bonjour.
Voilà, on démarre tout de suite avec cette question. C'est vrai qu'on a d'énormes enjeux actuellement sur la table en termes d'ESG, donc les fameux critères environnementaux, sociaux de bonne gouvernance, la réduction carbone, la crise énergétique. Finalement, quels sont les enjeux et les ambitions en termes de réduction carbone? C'est ce que j'ai envie de vous poser comme question, Philippe Lefort. Mais tout d'abord, présentez-nous juste pour qu'on contextualise Umbio et Patrizia.
Alors, Patrizia, d'abord, qui est la maison mère. Patrizia, c'est un investisseur en immobilier qui est coté à Francfort, qui a à peu près 38 ans d'existence aujourd'hui, qui a été fondé par un entrepreneur, qui est Wolfgang Egger, qui est toujours à la barre, entre guillemets, du bateau. Mm-hmm. C'est aujourd'hui une entreprise avec un footprint quasiment global.
Une empreinte.
Hein. Oui, merci.
J'ai dit que j'allais traduire les
ambitions. Merci. OK. Avec une empreinte globale, avec à peu près 55 milliards d'actifs, dont à peu près 50 sont dans l'immobilier et 5 sont dans l'infrastructure.
OK. Pan-européen ou
alors,
mondial?
Alors, on a une base très européenne et puis on est en train de s'étendre dans la région, donc en Asie, en Australie. Et puis évidemment, on regarde aussi le reste du monde, bien que pour l'instant on n'est pas de présence, on n'a pas de bâtiment aux États-Unis, on a des bureaux là-bas, mais on n'a pas de bâtiment. Et en fait, Umbio, pour en revenir à ce que je fais moi, Umbio est né en fait du constat que quand on veut mettre de la technologie dans les bâtiments, il n'y a pas d'outils synthétique pour le faire de manière efficace et holistique en fait. Et donc moi j'ai rejoint Patrizia il y a à peu près 2 ans et j'ai mis ça en place pour eux. Et aujourd'hui on développe un outil informatique, ce qu'on appelle un SaaS. Alors je ne connais pas l'acronyme français, mais c'est un software as a service. Donc on développe un software pour en fait faire de l'analyse au niveau des bâtiments, est-ce qu'il nous permet de comprendre en fait le potentiel d'amélioration des bâtiments avec la technologie. Et puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des partenaires technologiques comme Delta Q pour pouvoir faciliter l'intégration de la tech dans les bâtiments. Et peut-être, juste pour terminer, pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi est-ce qu'on croit à ça? Aujourd'hui, on sait que les bâtiments, le bâti, c'est à peu près 40% des émissions CO2 annuelles. Et on sait que c'est une aventure, en fait, de réduire l'empreinte carbone. Ça ne va pas se faire d'un coup. Mais il faut commencer avec la technologie. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ça.
Alors, il y a effectivement l'empreinte carbone. Et puis aussi, cette crise énergétique qui impacte, évidemment, toute l'Europe, le monde entier. Mais de manière peut-être encore plus difficile et dure, notamment l'Angleterre, où on a des prix qui explosent là aussi. C'est important pour vous on va parler des critères ESG après, mais justement déjà d'avoir cette vision réduction. Réduction carbone, réduction énergétique.
Absolument, c'est essentiel. Alors, je crois que malheureusement, la guerre en Ukraine a vraiment mis en fait le doigt là-dessus et aussi le doigt sur la manière dont l'Europe s'approvisionne en énergie. Et en fait, En fait, ce qu'on voit, c'est que on va devoir accélérer en fait notre transition vers des énergies renouvelables. Et puis l'Angleterre, qui est une île et qui est donc est coupée de ses partenaires, donc il y a comme des relations, il y a comme des liens physiques en termes d'énergie, mais a évidemment un problème qui est plus difficile à approcher que disons la France ou l'Allemagne.
Voilà. D'accord. Sébastien Chimouni, je m'adresse à vous, Head of France pour Allianz Real Estate. Déjà, petit mot sur le périmètre pour bien comprendre les enjeux, et ensuite même question, voilà, est-ce qu'aujourd'hui cette crise énergétique, elle vous force votre groupe à avoir d'autres solutions pour mieux piloter ses consommations et être plus performant encore?
Oui, merci à DeltaQ pour l'invitation. Alors Allianz Real Estate, c'est l'asset manager du groupe Allianz. Nous sommes une filiale du groupe PIMCO. C'est une présence immobilière dans trois continents, l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique et l'Europe, bien sûr. C'est une bataille du bureau, donc une présence locale extrêmement forte, ce qui est très important pour nous. Un patrimoine global d'un peu plus de 90 milliards d'euros, plusieurs classes d'actifs, bien sûr, trois types d'investissements, l'investissement direct dans des immeubles que nous détenons, l'investissement indirect, donc prise de participation dans des fonds d'investissement, et un investissement en dette, donc financement. En France, plus particulièrement, c'est 8,5 milliards d'euros de patrimoine, dont 60% en bureaux, 15% en commerce, 15% en logistique et 10% en résidentiel. Les enjeux pour nous du développement durable sont multiples, et c'est une problématique qui est présente chez nous depuis très très longtemps. On a commencé à réfléchir depuis longtemps.
Avant la crise sanitaire ?
Bien avant la crise sanitaire, bien sûr. Pourquoi ? Parce que, pour déjà deux raisons essentielles, c'est que c'est ce qui est demandé, c'est ce qui va être demandé par nos utilisateurs. Et in fine, nous louons des produits. Si ces produits ne sont pas attractifs, c'est tout notre métier qui s'effondre.
Mais je vous posais la question parce qu'on a l'impression qu'il y a eu une mutation avec la crise sanitaire. On a maintenant des demandes sur les bureaux qui sont un petit peu différentes. Alors notamment, évidemment, le moins énergivore possible. Mais en plus, on n'habite pas, ou plutôt on ne travaille pas de la même façon dans un bureau.
Oui, la crise sanitaire, ça a été dit plusieurs fois, a accéléré ces mutations. Hein. Les mutations étaient déjà présentes, d'où le fait qu'on travaille sur ces aspects depuis des années. Le développement durable est une problématique qui a commencé au début des années 2010 avec le phénomène de certification. On a vu les certifications arriver et plusieurs sociétés foncières étaient contentes d'avoir des immeubles certifiés. Nous, on ne s'arrêtait pas là, en fait, chez Allianz Real Estate, parce qu'on savait bien que ce n'était que le début. On a commencé à certifier tous nos immeubles, mais ce n'était que le début. La crise sanitaire n'a fait qu'accélérer ces mutations. Je reviens sur les enjeux. Enjeux utilisateurs, enjeux pour nous en tant que société. Nous devons aussi attirer les talents. Et les talents veulent des entreprises qui sont vertueuses sur tous les sujets de réchauffement climatique et de développement durable. Et aussi parce que ça représente pour eux une capacité de formation importante. Ces personnes-là, ces talents, ces collaborateurs apprennent beaucoup de choses chez nous. Accessoirement, on l'a vu depuis la guerre en Ukraine, le coût énergétique a été décuplé. Et aujourd'hui, il faut quand même comprendre que pour un locataire qui cherche des bureaux qui sont bien placés, avec des prestations de haut niveau et donc chers, avec des salaires qui subissent une inflation qui est là et des coûts énergétiques qui se décuplent, ça va pas être facile. Donc on se doit de, pour eux, travailler à des consommations qui soient pertinentes, rationnelles, et non pas comme c'était le cas avant, avec beaucoup de gâchis. On en reparlera tout à l'heure.
On va voir justement dans un instant des exemples pratiques, hein, comment réduire les consommations grâce à la techno. On continue le tour de table avec vous, Bernard Darche, directeur du développement chez Longevity Partners. Que fait Longevity Partners ?
Longevity Partners, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé en développement durable pour le secteur immobilier. Donc ça, c'est vraiment notre double spécialité, et on en a une troisième qui est qu'on est un acteur international. Notre siège est à Londres, mais nous avons des bureaux à travers l'Europe, au Japon et aux États-Unis. Et donc, notre objectif, c'est de pouvoir accompagner tous les acteurs immobiliers de la définition de la stratégie ESG jusqu'à leur implémentation. Et donc, c'est comme ça que finalement, on est capable de fournir des services clés en main tout de suite jusqu'à l'implémentation.
Et justement, donc vous accompagnez aussi les entreprises partenaires dans leur transformation. Comment ça se traduit de manière au niveau de la techno, justement ? Quelle est
l'expertise que vous leur apportez?
Là, c'est vraiment une expertise marché qu'on va apporter. C'est-à-dire que nous, une de nos responsabilités, c'est de voir quelles sont les innovations qui fonctionnent sur le terrain et qui sont déployables pour pouvoir ensuite les recommander et les suggérer finalement dans les plans d'action qu'on suggère actif par actif à nos clients.
Khadija Nadi, on voit, on a à peu près les mêmes discours, en tout cas c'est cohérent. Vous qui êtes la patronne finalement, la CEO de DeltaQ, comment vous embrassez aussi ce sujet? On a l'impression que c'est, voilà, que ça va s'amplifier comme mouvement et qu'on va avoir de plus en plus besoin de ces nouvelles technos pour faire aussi ces économies et ces audits énergétiques et de performance.
Oui, alors je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que toutes ces crises successives, elles amplifient tout ce qu'on a vu. On voit que la technologie aujourd'hui est adoptée de plus en plus. Et forcément, dès qu'on est face à une crise énergétique sans précédent, on veut passer beaucoup plus rapidement, et je pense que ça, Bernard, vous devez le voir, beaucoup plus rapidement à l'implémentation. Aujourd'hui, il y a des sociétés comme Allianz ou Patricia qui étaient déjà très avancées sur l'aspect tech ou innovation. Mais on voit aussi que d'autres acteurs dans le marché aujourd'hui prennent de la vitesse énormément et prennent de la vitesse ces derniers mois grâce à la crise ou à cause de la crise
énergétique. Mettre les bouchées d'eau, finalement.
Voilà. Donc nous, ce qui est important pour nous dans ce cadre-là, c'est d'être le pont entre ces asset managers qui vont définir une stratégie, qui vont screener à l'aide de partenaires comme Longevity ou d'autres, les meilleures technologies qui vont faire ce travail de fond. Ensuite, ce n'est pas l'asset manager en tant que tel d'aller implémenter bâtiment par bâtiment avec les équipes techniques, opérationnelles des facility managers. Là où DeltaQ a un vrai rôle, c'est de donner, moi je suis belge, et il y a une expression qui dit donner des mains et des pieds à une implémentation. En fait, c'est ce qu'on fait, on crée un pont. On fait ce lien entre l'asset manager et puis les facilities, les techniciens qui sont là sur place. Ça, c'est important, c'est créer ce lien, arriver à réellement implémenter, bien comprendre le terrain, ce qui n'est pas toujours le cas de beaucoup de boîtes tech. On en parlait tout à l'heure.
Oui, parce qu'il y a des strates, c'est ça. Un immeuble, finalement, il est géré par énormément de personnes.
Et voilà, il y a énormément de monde dans un immeuble, donc ça, c'est très important. Et puis surtout, il faut avoir une technologie qui est déployable et qui peut être déployée à grande échelle. Le fait de pouvoir scaler, donc de porter cette technologie à très grande échelle, c'est important. Aujourd'hui, DeltaQ, on est actif partout en Europe, en Asie aussi, principalement en Europe aujourd'hui, grand focus sur l'Europe. Voilà, il y a beaucoup de critères qui sont, et je pense que c'est probablement même peut-être à Sébastien ou à Philippe de rebondir là-dessus, mais choisir les bons partenaires qui vont pouvoir les accompagner autant dans la partie d'établir la stratégie, mais dans la partie implémentation, je pense que ça, c'est important. C'est souvent sous-estimé, parce qu'au final, il s'agit aussi de comportements qui doivent changer. La technologie, si elle existe déjà.
Alors justement, on va demander à nos grands témoins du jour et nos experts, Philippe Lefort pour Patridia, comment on fait, comment on démarre? Ça démarre par quoi? Par un audit? Faut choisir ses partenaires? Faut effectivement avoir mettre en place peut-être des centres de compétences? Racontez-nous.
Alors en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que on est des spécialistes du smart building, donc c'est notre c'est notre environnement et on...
Vous êtes déjà très connecté finalement.
Alors non, on connaît bien, enfin on apprend tous les jours évidemment, mais on est relativement bien informé sur le sujet. Après, ce qu'on fait, ce qui est très important, c'est que le premier contact que nous avons avec une entreprise, c'est ce qu'on appelle un screening call. Alors donnez-moi la traduction française parce que je ne l'ai pas.
Un audit finalement, en tout cas.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est une conversation, c'est une interview où en fait on passe. Nous, probablement, la moitié du temps, à poser des questions en suivant des critères qui sont très, très précis à l'entreprise qui présente ses produits. Cette première interview nous permet d'avoir, après ça, un score. Mm-hmm. Et donc, on fait à peu près une centaine d'entreprises par an. Moi, je ne les vois pas toutes, mais je sais, après ça, je peux me repérer, en fait, en fonction des scores qu'on a. Une fois que ce score, il est validé et que l'équipe a quelqu'un dans l'équipe en fait a défendu le cas pour qu'on puisse le porter au stade suivant. Après ça, on part plus loin dans une audit, dans une due diligence, on pose certaines questions. Et puis si la technologie est déjà relativement mature, eh ben on va directement en implémentation. Si la technologie n'est pas forcément mature, on fait ce qu'on appelle des pilotes pour vraiment tester, pour développer, pour voir ce qui se passe. Et ces pilotes-là nous permettent aussi en fait de calibrer nos process, d'affiner les choses pour que, au moment venu, nous soyons prêts à faire 50 ou 100 bâtiments. Et voilà. Et donc, on regarde, pour vous donner quelques critères, on regarde évidemment l'équipe, on regarde les clients, on regarde la cybersécurité, on regarde la qualité de la technologie, on regarde la qualité des process qui sont mis en place. Et une fois qu'on est content de tout ça, eh bien, on part en implémentation.
Vous partez en implémentation. Comment ça se passe du côté d'Allianz ? Parce que là, vous l'avez dit, vous êtes à peu près sur des tailles à peu près similaires. Comment ça se passe chez vous, justement, pour déterminer ?
C'est aussi assez similaire. On a passé pas mal de temps à faire un constat, à établir un point de départ. C'est très important. On nous dit toujours, on ne sait pas améliorer ce qu'on ne sait pas mesurer. Donc, on a passé une étape.
Et ceux qui se mesurent s'améliorent.
Et ceux qui se... Mais tout à fait. C'est la conséquence. Et ceux qui se mesurent s'améliorent. On a passé pas mal de temps à se structurer justement pour établir ce point de départ. C'est pas juste avoir une empreinte carbone qu'on a fait il y a quelques années, effectivement, mais après faut se rendre compte qu'il faut le refaire régulièrement, etc. Donc c'est pas uniquement ça, c'est aussi faire beaucoup d'audits de nos immeubles, comprendre quels étaient les axes d'amélioration, aussi installer des capteurs sur nos immeubles, des compteurs, pour avoir des remontées de données très, très importantes. On a aussi en fait, et c'est très important, établi une équipe d'innovation qui, avec des profils assez exogènes à l'immobilier, parce que on n'a pas recyclé des asset managers ou d'autres personnes qui ont dit bah tiens tu vas travailler à l'innovation. Non, on a pris des gens assez exogènes finalement, et c'est ce qu'il fallait faire, des gens avec des regards nouveaux et après donc le rôle de cette équipe c'est non pas de faire des essais à droite et à gauche, mais c'est de bâtir une stratégie que nous avons appelée au sein d'Allianz BSP, c'est Building Signature Programme, excusez-moi je le traduis pas parce que Building Signature Programme, qui est en fait chez nous la bible de ce qu'est un immeuble smart. Qu'est-ce que nous voulons d'un immeuble smart? C'est pas celle de Patricia, c'est la nôtre et notre propre en fait bible. Et ça c'est partout dans le monde. Et donc là on est en plein dans le rollout, dans l'implémentation de ce Building Signature Programme sur des immeubles en fonction des départs de locataires et en fonction des immeubles. En parallèle, on a aussi fait beaucoup d'avancées technologiques. DeltaQ en est une, j'y reviendrai, mais on a, avant DeltaQ, on a commencé à installer des compteurs. On a fait un partenariat avec Datanumia, on a fait un partenariat avec WeMaintain qui fait la maintenance d'ascenseurs mais connecté.
Oui. On a
aussi fait un partenariat avec DeepKey pour stocker l'information. Et derrière, ce qui nous a permis de travailler avec DeltaQ, parce que DeltaQ, en fait, il leur faut des datas pour avancer. Et s'ils n'ont pas de data, s'ils n'ont pas de compteurs, s'ils ne voient pas l'évolution des économies, finalement, on est un peu à la vague, on ne peut pas avancer. Donc ça a été fait, en fait, chez nous, avec toujours ce besoin de pousser nos partenaires et que nos partenaires nous poussent, parce que s'il n'y a pas cette volonté mutuelle d'essayer d'aller plus loin ensemble, il y a un déséquilibre. Et ça marche très bien. Aujourd'hui, ça marche très bien avec DeltaQ. On est ravis de travailler avec DeltaQ et on va continuer ce partenariat. Mais... voilà, c'est notre enjeu, c'est notre
donc
ambition.
Donc on comprend, là, déjà établir un référentiel ou d'énormes maisons, en tout cas sur quoi vous voulez tendre, et ensuite découvrir les bons partenaires et les bons outils. Francesco, vous n'avez pas pris encore la parole. Juste pour resituer ce que fait DeltaQ, on parlait de capteurs à l'instant. Vous, justement, une fois qu'il y a eu cette implémentation et qu'on sait où on veut aller, après, comme le disait Sébastien très bien, il faut pouvoir mesurer, c'est ce que vous faites avec les capteurs, hein, c'est bien ça?
Oui, disons que nous, en fait, les capteurs sont installés par nos clients et je pense qu'il faut le saluer effectivement, cet effort qui a été fait depuis déjà plusieurs années par des grands acteurs pour récolter la donnée, parce qu'effectivement, sans données, on ne peut pas travailler. Et une fois que nous avons ces données-là, nous sommes en capacité de la conjuguer, en tout cas, de la conjuguer avec des prédictions météorologiques pour arriver à piloter de manière efficace un bâtiment en temps réel. Ce qui nous permet aujourd'hui de proposer vraiment des économies d'énergie et de CO2 qui sont non négligeables et même, je dirais, plutôt importantes et appréciées par une grande majorité de la profession.
Je me tourne également vers vous. Chez Longevity, pareil, hein, vous avez aussi cette expertise pour vous installer, enfin, vous captez aussi des données, vous avez besoin de cette information, cet or de la data.
Absolument. Donc nous, en fait, nous,
cet or numérique.
Bah, c'est ça. Notre objectif, c'est de pouvoir travailler avec de la data. Nous, ce qu'on réalise, c'est des audits énergétiques détaillés et des trajectoires net zéro carbone à échéance 2030, 2040, 2050. Et donc finalement, bah, l'idée, c'est que il faut qu'on ait de la data, il faut qu'on ait une compréhension des actifs extrêmement détaillée pour pouvoir ensuite réaliser des recommandations et des implémentations qui viennent finalement permettre un retour sur investissement, certes, mais un retour sur investissement d'un point de vue carbone également. L'objectif, c'est de pouvoir permettre finalement et de suggérer des actions qui recommandent en un premier lieu les OPEX. Donc finalement, c'est simplement des améliorations sur la gestion du bâtiment, en plus et après le CAPEX, qui du coup représente des investissements plus importants. L'idée, c'est de pouvoir commencer par des quick wins, des choses qui sont simples à mettre en place pour pouvoir justement y arriver. Et c'est comme ça qu'on se repose sur des partenaires comme DeltaQ pour pouvoir ensuite initier ce chemin vers une transition du secteur immobilier.
Le choix des partenaires, on le voit, il est crucial. Justement, pour Patricia, on va commencer avec vous, Philippe Lefort. C'est quoi le pour bien choisir, parce qu'on se dit, bon, DeltaQ, j'imagine, n'est pas seul sur son marché. Vous aussi, c'est important de choisir le bon partenaire. Comment vous faites cet audit au moment du choix d'un partenaire?
Alors justement, le processus commence toujours soit par une recommandation, soit par une approche directe. On fait en première interview, on décide si on veut continuer ou pas. Et puis après ça, on évalue en fait la force de la proposition et de l'entreprise. Et on regarde aussi dans quelle mesure la proposition correspond à nos besoins, à ce qu'on appelle notre technology stack, donc à l'entier des solutions.
Oui, parce qu'il faut qu'elle puisse s'interfacer, il faut que le système soit ouvert, il faut qu'il soit sécurisé. On parle beaucoup de cybersécurité en même temps. Ouais. Donc, je mets c'est tout autant de points que vous allez vérifier
absolument
avant de rentrer dans cette relation.
Absolument. Et ce qui est très important pour nous, en fait, c'est d'avoir des partenaires qui vont travailler. Alors, en cybersécurité, c'est évident, mais surtout qui vont suivre, en fait, ce qu'on appelle des protocoles et de l'ontologie de la manière dont la data est collectée, construite et organisée, qui sont open source. Ça veut dire que aujourd'hui, on va pouvoir emboîter en fait un DeltaQ avec peut-être Fabric ou DeepKey, parce qu'on travaille aussi avec, et on va pouvoir construire en fait une chaîne de relais en fait virtueux. Parce que ce qui est très important, c'est que le jeu de l'amélioration de nos bâtiments, qu'ils soient au point de vue énergétique ou qu'ils soient au point de vue du confort pour les occupants, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas une tech qu'on va pouvoir mettre et puis on va régler le problème. Il va falloir aller se servir.
Il faut prendre des briques.
Il faudrait prendre des briques. Et ces briques doivent marcher ensemble. Et c'est simplement la collection de ces briques. Enfin, simplement. Et c'est la collection, je dirais, assez subtile de ces briques qui va faire qu'on arrive vers un résultat qui est tangible et qui est positif.
Donc pour vous, le job, c'est aussi de trouver les bonnes briques au bon moment.
Alors on passe beaucoup de temps à chercher les bonnes briques, exactement.
Sébastien Chemouni, alors même question, c'est vrai que pour vous aussi, c'est le même processus. Vous avez cité quelques partenaires, DeltaQ en fait partie.
Et tous les partenaires que j'ai cités et d'autres, hein, il est très important de... Déjà, moi, en premier lieu, ce que je regarde, c'est la vision des fondateurs de ces PropTech, la vision. Il faut que, un, la vision soit durable. Il faut que la vision nous serve et aussi que cette vision s'intègre dans un modèle économique immobilier. C'est-à-dire qu'en gros, des PropTech, j'en ai vu, hein, qui veulent changer l'équilibre économique immobilier. En gros, je vais créer de la valeur sur l'immeuble, donc je vais prendre une partie de cette valeur de l'immeuble en capital. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Faire des économies de consommation et prendre une partie de cette économie, ça fonctionne parce qu'on ne touche pas à la valeur de l'immeuble. C'est un équilibre économique qui fonctionne pour nous. C'est important que l'équilibre économique rentre dans notre considération. Et le dernier point, pour moi, je reviens sur la vision, parce que la vision, on n'achète pas une technologie à un instant T. On achète une technologie et une capacité d'évolution, cette technologie, parce que les choses ne vont pas rester statiques. On parle de technologie, donc effectivement ça évolue très très vite, et si la structure reste sur un modèle qui est le modèle qu'ils proposent aujourd'hui et que dans un an je suis obligé de changer pour reprendre un modèle bien qui sûr a évolué, c'est des problèmes. Donc je veux aussi m'assurer de la pérennité de la solution. Alors, que Philippe, je vais acheter.
Philippe, vous réagissez, ensuite Francesco.
Oui, et moi je veux juste, rebondir hein, sur ce que tu dis, Sébastien. Nous, on a un objectif d'être net zéro carbone en 2040. Et donc, en fait, quand on regarde comment est-ce qu'on va arriver à faire ça, on se pose la question de comprendre quelles sont les technologies qui vont nous amener, en fait, le plus proche de ça. Et ça veut dire, par exemple, avec DeltaQ, on travaille initialement sur l'optimisation de la CVC. La deuxième étape, ça va peut-être être de remplacer les équipements si nécessaire. Et la troisième étape, ce sera d'interagir avec le réseau pour pouvoir potentiellement réduire notre consommation quand il y a des pics de consommation ou peut-être de charger les bâtiments plus tôt quand l'énergie est meilleur marché, ce qui nous permet après ça de pouvoir descendre les besoins maximum du réseau et de descendre le carbone du réseau. Et c'est comme ça qu'on arrive à 60 ou 70% de réduction du carbone. Et donc, pour nous, c'est très important de pouvoir se dire qu'on ne va peut-être pas avoir besoin de 50 technologies, peut-être qu'on en aura besoin de 10, mais de savoir, en fait, qu'au fur et à mesure du temps, on va être capable d'avoir ces différentes étapes ensemble.
Ouais, lesquelles sont importantes, Sébastien ?
La façon dont je résume ça, il y a deux aspects. Il y a le gaspillage et l'optimisation. Aujourd'hui, on est en phase...
Chasse au gaspillage, comme dans les 70.
Chasse au gaspillage, le CVC, ce que tu dis, en fait, on gaspille énormément aujourd'hui, oui. Énormément. Et malheureusement, vu les...
Donc, bureaux chauffés tout le temps, jour et nuit.
Climatisés, ventilés tout le temps.
Climatisés, oui. Des lumières qui ne s'éteignent pas forcément alors qu'il n'y a plus personne dans les bureaux.
On a fait des progrès.
Alors ça c'est en cours, donc je pense que c'était les quick wins dont parlait peut-être Bernard.
C'est ça, aujourd'hui, il y a tellement de quick wins, mais ces quick wins, en fait, on les fait...
Beaucoup, hein.
Ce qui est important, c'est de les faire sans pour autant toucher au confort de l'utilisateur. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un débat hein, entre est-ce qu'on va demander à nos utilisateurs de mettre des pulls au bureau ou alors est-ce qu'on va, sans toucher à leur confort, gagner en consommation. Et je pense que DeltaQ, alors je me permets peut-être d'expliquer un peu plus à nos auditeurs ce que c'est simplement un pilotage. Vous me reprendrez, hein, mais un pilotage beaucoup plus précis des équipements de CVC pour justement apporter utiliser de l'énergie à bon escient. Ouais. On n'est pas obligé de ventiler une pièce quand il n'y a personne. On n'a aucune obligation. Et au niveau du chauffage, quand on chauffe à 8h du matin et que ou à 7h du matin et qu'à 8h30 c'est chauffé et qu'il n'y a personne au bureau, c'est un peu dommage. Donc, pourquoi ne pas utiliser la data et voir quand est-ce que les premiers arrivants, à quelle heure les premiers arrivants arrivent? Et pour chauffer, pour que l'inertie de l'immeuble fasse qu'au moment où ces premiers arrivants arrivent, l'immeuble est chauffé. Ce sont de la chasse au gaspillage. Et après, on peut passer à la phase optimisation, où là, effectivement, ça va être beaucoup plus délicat parce que on voit bien les 20, 30, 40% d'économie d'énergie vont être relativement faciles. C'est du gâchis. C'est la chasse au gaspillage. Après, ça va être beaucoup plus compliqué. Après,
s'il y a une espèce de courbe asymptote où on peut aller très vite au début et après on va plafonner.
Après, ça va être beaucoup plus compliqué.
Francesco voulait réagir également.
Oui, par rapport à l'interaction avec la grid, effectivement, c'est le pour l'après. Aujourd'hui, donc, on a un système en France qui s'appelle EcoWatt, sur lequel on a des marqueurs et en tout cas des informations sur l'utilisation, le meilleur moment d'utiliser le réseau. Nous, aujourd'hui, chez DeltaQ, on travaille d'ores et déjà à cette interaction de manière beaucoup plus rapide, à partir du moment où on a des informations du réseau pour pouvoir gérer les consommations au bon moment, en fonction de la disponibilité des énergies renouvelables, par exemple, et ça fait partie de l'empreinte carbone améliorée des bâtiments. Et puis, potentiellement, pourquoi pas travailler sur un échange d'énergie entre d'immeubles d'un même portfolio. Il y a plein de pistes qui sont aujourd'hui à l'œuvre et qui sont étudiées par notre recherche et développement.
Philippe, vous voulez...
Juste pour répondre là-dessus, ce qui est important pour nous par rapport à ce thème-là, c'est que nous, on voit vraiment nos bâtiments comme une infrastructure. Et c'est l'infrastructure qui fait partie de la ville hein, et qui fait partie de communautés. Et un des grands enjeux pour nous, ça va être de moderniser ces infrastructures avec des panneaux solaires, avec des batteries, avec toutes sortes en fait d'autres infrastructures qui vont après ça nous permettre de pouvoir interagir et d'être intelligent. Et ça, c'est le programme, je pense, auquel on est tous en train de s'atteler et qui va en fait constituer une énorme partie du travail des investisseurs et des asset managers en immobilier, et qui est très intéressant parce qu'il y a aussi énormément de valeur à créer, aussi bien pour les propriétaires que pour les utilisateurs et les communautés dans lesquelles nos bâtiments s'en servent.
On est d'accord qu'on est qu'au début, finalement, de cette révolution, ce bâtiment intelligent, ce smart building, parce que voilà, il est rendu possible depuis quoi, allez, une dizaine d'années au plus par cette technologie, ces capteurs, peut-être qu'ils n'existaient pas encore il y a au moins une décennie, et on a l'impression que voilà, on est qu'au début de ce mouvement.
Alors je pense qu'on est vraiment qu'au début et on le voit et on l'entend, mais ce qui est quand même génial aujourd'hui et ce qui est quand même encourageant, c'est qu'on est, on a déjà cette vision. Enfin, on a quand même deux leaders ici sur le marché qui nous parlent déjà de, OK, l'étape 1, on va la faire, mais comment procède-t-on après ? C'est-à-dire, après, on va mettre, voilà, ce que tu disais, Philippe, on va mettre des panneaux solaires, on va mettre, il y aura plus de véhicules électriques, donc il y aura tout ça. Donc le bâtiment deviendra un bâtiment intelligent, deviendra autre chose, aura une autre fonction et pourra prendre sa part de responsabilité. Parce que les bâtiments ont une grosse responsabilité, on l'a nommé tout à l'heure, 40% du COD, c'est énorme. Et le bâtiment commence, on n'en est vraiment qu'au début, mais voilà, c'est une industrie qui doit aller vite, on n'en est qu'au début, mais je trouve que la crise énergétique ici a permis quand même d'accélérer les choses, mais n'oublions pas que derrière la crise énergétique, il y a une crise climatique qui pourra et qui aura des conséquences bien plus graves pour tout le monde, partout sur la planète, si on n'agit pas. Mais je trouve qu'on est, voilà, ces derniers temps, je trouve qu'on est plutôt optimiste quand je discute et quand je vois quand même une rapidité, il y a quand même une rapidité, une accélération et avec une vision long terme que je trouve très intéressante aujourd'hui.
Oui, alors justement, ce sera ma dernière question parce que voilà, le temps file. Réponse rapide également. On a l'impression que là, les technos, ça y est, elles existent. La volonté, elle est là. On est un petit peu forcé par l'incitation quand même économique, hein, à faire des... Quels sont les derniers leviers, les challenges, si on veut avoir une vraie chance d'atteindre justement ces objectifs de réduction de bas carbone, ces objectifs climatiques? L'idée, c'est la volonté est là, les technos sont là. Qu'est-ce qui manque pour accélérer encore et atteindre ces objectifs bas carbone?
Le savoir-faire. En fait, ça a été dit tout à l'heure, hein, on est des professionnels de l'immobilier, on n'est pas des professionnels de la tech ou de la deep tech. Hein. Donc nous, il nous faut des solutions concrètes et applicables. Ça a été dit tout à l'heure par Khalija. Et effectivement, on ne sait pas intégrer plusieurs systèmes, plusieurs mondes différents. C'est pas notre métier. On a vraiment besoin de ça. Et effectivement, on a quelques acteurs qui se démarquent sur ce domaine-là. Et ces acteurs, je le sais, c'est le cas de Patricia, c'est le cas d'Alliance également, nous sommes un petit peu à livre ouvert, hein. On partage, on contribue, on communique pour essayer de
d'enrichir l'écosystème aussi.
D'enrichir l'écosystème, moi j'appelle ça l'innovation cumulative, en fait, parce qu'on a beaucoup à gagner de nos voisins, parce qu'eux-mêmes vont innover quand ils seront à notre niveau, donc, et on profitera de ces innovations. Donc je pense que l'intérêt commun, c'est l'innovation cumulative. C'est vraiment d'essayer d'avancer en tant qu'industrie. Et effectivement, il y a la volonté, je suis d'accord, il y a la volonté, ça s'accélère, mais on est en retard. Hein. Ça a été long au démarrage. Hein. Moi, je compare toujours l'industrie automobile avec l'industrie immobilière. L'industrie automobile, qui est une industrie qui est très lente aussi, hein, qui a toujours été très lente. Le moteur thermique, il a plus de 100 ans. Aujourd'hui, quand on regarde ces 10 dernières années, c'est une industrie qui a subi une révolution très importante. Une révolution des voitures.
Parce qu'il y a eu la norme aussi. La norme qui a aidé, évidemment, avec célérité.
Voilà. Donc on est au début, mais on va y arriver.
Une approche, j'ai l'impression, open source, et je puisse résumer, de ces innovations en real estate. Oui. C'est le cas de Patricia également ?
Bien sûr, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est clair dans cette quête que nous avons, dans ce combat que nous menons, c'est qu'on gagnera ensemble et on perdra ensemble. Et là, les enjeux... bien qu'on ait une responsabilité envers nos investisseurs et nos clients, c'est évident, on a quand même une responsabilité, je dirais, sociétale et d'acteurs, en fait, du territoire qui ont la possibilité de changer les choses. Et là, c'est extrêmement important de pouvoir échanger pour faire avancer, pour faire avancer les choses. Et peut-être, juste pour répondre à votre question, la question précédente, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour faire avancer les encore leviers. Plus les leviers? Moi, je dirais que l'éducation, c'est extrêmement important. Il faut répéter et répéter et répéter parce que les choses nouvelles mettent toujours du temps à rentrer. Et derrière, ce à quoi on travaille aussi beaucoup, c'est la simplification des processus. C'est-à-dire, quand DeltaQ et Ambio ont fini de travailler ensemble et qu'on est prêt pour un déploiement à l'échelle du portfolio, les process sont simples, on sait comment faire. Et il n'y a pas trop d'inconnus pour les gens qui vont les dérouler. Comme ça reste facile.
Très bien. Donc, répétition, formation, pédagogie, on l'a entendu également, et diffusion, finalement, de cette information. Eh bien, écoutez, on essaie un petit peu plus, justement, sur ce bâtiment qui est en train de se transformer avec ces nouveaux capteurs, ces nouvelles technologies embarquées. J'allais dire, peut-être comme dans les véhicules, ben voilà, les bâtiments bientôt communiquent grâce à DeltaQ, à d'autres, voilà, un écosystème, en tout cas, qui se met en place. Un grand merci à nos experts du jour, Sébastien Chemouni, merci. Khadija Nadi, CEO DeltaQ, Bernard Dash, pour Longevity Partners France, Philippe Lefort, Ambio et Patricia, et Francesco Amari, directeur France de DeltaQ. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Crise énergétique, comment agir au plus vite. À très bientôt.
Crise énergétique, comment agir au plus vite. Une émission proposée par DeltaQ sur Radio Imo et Carbone Zéro la radio.